On accueille Mélanie maintenant au 3921. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous Mélanie et quel âge avez-vous?
J'appelle du sud de la France et j'ai 43 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Mélanie?
Je me retrouve dans une impasse judiciaire qui m'oppose au père de mon fils.
Oui.
Et ça fait 17 mois que je vis sans mon enfant alors que je l'ai accouché seul et je l'ai porté seul. Et qu'en plus, il est issu d'une FIV. Je suis stérile.
Oui.
Et j'ai dû quitter en fait la ville et la région dans laquelle je vivais justement pour m'enfuir. Et en ça, mon fils actuellement est en institution, donc il n'est pas non plus avec son père. Et au bout de 17 mois, je n'ai pas d'issue. que ce soit avec les institutions avec qui les relations commencent à être de plus en plus compliquées, tendues et privatives, j'ai presque envie de dire. Et puis l'affaire qui m'oppose aussi dans le divorce avec ce monsieur. Et donc, comme j'ai priorisé essentiellement
l'enfant,
une situation, oui, parce qu'en fait, dans la fuite, j'ai dû me retrouver dans une précarité qui n'est pas voulue, mais qui a été une issue. C'était la seule que j'avais.
Oui.
Et après, au bout de 2 ans, j'ai résorbé une situation socio-économique. C'était ma priorité. Et en ce sens, j'ai pas les possibilités de m'offrir un avocat actuellement. Donc j'ai une prise en charge sur une aide juridique totale, mais c'est très maigre. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous appelle, c'est-à-dire que mon fils a 17 mois, je le vois quasiment jamais malgré des efforts constants et en plus reconnus. Malgré des enquêtes sociales, des observations, des surveillances répétées et en plus en immersion à la maison, et où le lien avec mon fils est absolument reconnu. J'ai été accusée par ce monsieur, excusez-moi parce que je ne suis pas... en étant soi-disant un danger potentiel pour mon fils. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je dis, enfin, où j'en suis là dans ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup d'émotions pour moi.
Oui, je comprends.
Et du coup, voilà, en fait, la raison pour laquelle je vous appelle, c'est réellement, je me retrouve à émerger d'une situation, en tout cas matérielle, qui est correcte, où ce qu'on me dit sur des rapports sociaux, qu'a priori mon fils est bien avec moi, d'ailleurs... Il triple son volume quand il est sur moi, parce qu'il est sécure. Il a du mal à supporter les séparations, il conscientise pas mal. On a un chat, et il a même un toboggan maintenant. Je crois qu'il y a des enfants qui n'ont pas ça. Je l'aimais perdument, mais malgré ça, je suis dans des restrictions qui deviennent trop difficiles. Et à un point où, c'est ce que j'écrivais récemment à l'un des services, où je ne sais pas ce qu'on me demande. Et je me retrouve dans une telle impasse où c'est en train de porter atteinte aussi à ma vie, à ma vie personnelle, à ma santé.
Oui.
Et ça développe des communications qui sont devenues délétères au point où on m'a supprimé aujourd'hui un droit. Et j'ai dû écrire à une autre annexe d'institution, parce qu'ils sont évidemment plusieurs. Qu'aujourd'hui, je suis obligée en fait de faire une espèce de détachement de l'espoir de vivre avec mon fils et peut-être même le rencontrer avant peut-être 3-4 ans, j'en sais rien. Je ne dis pas que ça se passera, c'est pas du tout un abandon de la situation. Au contraire, justement, c'est la raison pour laquelle je vous appelle, mais je suis trop mise à mal émotionnellement et c'est en train de... c'est possible que ça puisse me faire perdre tout. C'est quand même des dispositions qui peuvent contraindre et mettre pousser à bout. Et je refuse, en fait. Je réalise vraiment des tas de choses et J'ai repris, en plus, je me suis réorientée professionnellement. J'ouvre bientôt, j'espère, mon activité. Et j'ai 43 ans, donc voilà. Je sais pas trop si vous avez des questions.
Mais... Non, mais vous avez 43 ans. Vous avez vécu, avant toute chose, pour que toutes celles et ceux qui vous écoutent comprennent aussi ce que vous avez vécu. Il faut que vous nous parliez de ce que vous avez enduré avec, avec cet homme.
Ouais, ben j'étais pendant 9 ans avec lui et on était mariés 6 ans. On s'est rencontrés, ça a été assez fulgurant. J'ai cru que c'était une espèce de phénomène âme sœur, un truc exceptionnel. Et puis j'ai eu l'impression de courir après quelqu'un que je ne connaissais pas. Chaque chose que je faisais était pour lui, rien n'allait. Et puis je me suis retrouvée à quand même être toujours très gratifiée en public. Mais à la maison, c'était compliqué. J'avais la sensation que ça n'allait jamais. J'ai vécu des dispositions où je ne savais même plus au point de ce que je disais, ce que c'était vrai. beaucoup de pression, et puis aussi des problématiques d'argent en permanence, alors que j'avais de l'argent. Mais bon, c'est vrai que c'était lui qui gérait notre argent, alors c'est aussi ma responsabilité. Hein. Et puis on est parti s'expatrier à Montréal, c'était une volonté que j'avais depuis longtemps, et puis il a accepté de le faire. Et j'ai vécu dans une espèce de sas. J'ai été enfermée totalement. J'ai perdu mes cheveux. Je parlais à personne pendant des semaines. Personne me voyait et je voyais personne. Et j'avais un teint gris. J'ai dépéri. Et puis en même temps, je poursuivais encore des tentatives pour tomber enceinte, hein, parce que c'est vraiment une volonté profonde que j'ai d'être mère. Il était très difficile, très rigide, très très froid, très j'étais pas là. Et puis j'ai une amie d'ailleurs qui était venue en vacances et qui a produit aussi un témoignage grâce à elle. Il y a des choses qui ont aussi évolué où elle a participé, elle a assisté à un événement particulier où c'était très violent.
Oui, parce que il a été très violent avec vous, cet homme.
Oui. Mais essentiellement, c'était psychologique. Et en fait, je n'ai plus vu personne. Et j'ai dû, en fait, oui, c'est vrai que... on est rentré en France ensuite parce que je ne pouvais plus vivre là-bas. Il a accepté, j'étais assez étonnée parce qu'il aimait sa vie là-bas. Et je suis tombée enfin enceinte après un traitement FIV. Et lui, en parallèle, a dû être arrêté professionnellement parce qu'il était diagnostiqué burn-out. Et là, je me suis retrouvée dans une situation où il a fait des épisodes psychiatriques et où progressivement, il n'était jamais là. Il répondait plus au téléphone. Il revenait à des moments où je ne savais pas où il était. On n'avait jamais d'argent. Je ne comprenais pas puisque je ne sortais jamais. Et puis, il a eu des fréquentations que je ne connaissais pas. Mmh. Il s'avère aujourd'hui que ça a été révélé, qu'il prend de la drogue. Il prend de la cocaïne depuis de nombreuses années. Et il jouait d'ambivalence, c'est-à-dire qu'il rentrait à la maison, il me promettait qu'il allait changer, qu'il m'aimait, qu'il était bloqué, il ne savait pas trop pourquoi, ces choses-là. Et moi, je me retrouvais en fait pendant des jours seule. Et je me retrouvais même sur le sol à pleurer. Et je ne savais pas comment je m'étais réveillée. Et puis il avait une tendance à vouloir obtenir des choses de moi en forcing. Et si je refusais, si je maintenais que ce n'était pas possible ou m'avoir besoin de temps, j'étais forcée d'obtempérer. Et il me contraignait avec les bras. En fait, il ne me touchait jamais le visage, quoi. Mais j'avais des bleus... sur les bras, et puis j'avais plus de force, quoi. Et puis j'ai été traînée sur le carrelage. La police est déjà venue, mais on m'a dit de porter plainte et que les mains courantes ne marchaient pas. Et lui devenait très sensible et très émotif en me disant, tu te rends compte, on peut tout perdre, moi je peux perdre toute ma vie, je ne recommencerai plus, je vais me soigner, etc. Et j'avais plus, en fait, j'avais plus de jus, quoi. J'arrivais plus. Parce que mon ventre ne sortait pas. Et j'ai dû partir. J'ai un lupus. C'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que je devais prendre en plus d'autres piqûres. J'ai eu des constellations sur le ventre bleu pendant des mois. Et j'avais un diabète à l'époque. J'ai perdu 49 kilos à la suite de l'arrachement de mon fils en 5 mois. Parce que c'est très traumatisant de vivre sans son enfant.
Mais cet homme, vous dites que vous êtes resté avec 12, vous êtes resté 12 minutes environ.
Oui.
Et puis plus jamais, en fait, il a enlevé l'enfant,
Non. En fait, je suis partie donc de la ville où on vivait pour atterrir dans la ville où je suis actuellement, que je ne connais pas.
Oui.
Je pouvais prendre un BlaBlaCar avec les moyens que j'avais. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis extirpée, en fait. Et j'ai été prise en charge, j'ai appelé le 3929 à l'époque, et ensuite j'ai été suivie par une association ici. Et au fur et à mesure, j'étais dans des services sociaux, des hôtels 115, le temps de recommencer ma vie ici, tout en ayant la possibilité d'accoucher dans les 4 mois à venir, quoi. Et ça a été l'enfer, quoi. et j'ai essayé d'avoir ce monsieur au téléphone. Et ça a été des... Je sais pas comment... Je saurais pas... C'était très vulgaire, quoi. Et la motivation de me faire mal. Et en fait, des choses qui étaient ignobles, qui étaient dites. Par exemple, de l'ordre de... Mais on sait tous que tu as voulu me faire cet enfant juste pour me faire chier, par exemple. Ou tu vas tout perdre, ma pauvre fille. Des choses comme ça. Et j'ai appris qu'il partait en vacances. D'ailleurs, j'ai des preuves qui sont formelles, comme quoi il est parti à Ibiza, notamment, pendant que j'étais dans la rue. Et il ne l'ignorait pas. Et en ce sens, il n'a jamais appelé quelqu'un de ma famille ou des amis pour m'aider. Et à la suite de ça, il a beaucoup menti, il m'a mis à mal. Beaucoup de torpillage. Et du coup, y a eu une enquête. Et on m'a enlevé mon fils. Et il a fallu après que je résorbe la situation dans les plus brefs délais, donc 6 mois, ce que j'ai fait.
Oui.
J'ai pas eu de suivi post-grossesse d'ailleurs. J'ai essayé de trouver tant bien que mal un appartement. Faut dire, cette ville, je ne la connais pas. Je la connaissais pas du tout. Les transports, je me suis trompée plus d'une fois. Enceinte et pas enceinte. Personne m'a aidée. Personne. Je connais personne. D'ailleurs, je peux pas avoir confiance comme ça du jour au lendemain. Auprès de personnes. Et, enfin, par expérience que je venais de vivre, c'était trop, trop contraignant et ça s'est beaucoup imprimé, quoi. Et j'ai réussi à trouver un merveilleux appartement, mais moi j'ai dormi pendant 20 jours sur le carrelage, par exemple, parce qu'il a fallu que j'obtienne un prêt, tant bien que mal, pour avoir enfin des meubles, notamment un frigo aussi. J'ai pas pu manger, je mangeais pas à ma faim. Moi je mange une fois par jour maintenant. Mais j'ai de quoi accueillir mon fils. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de contraintes, mais je fais des choix. Mais je ne dépends plus de lui. Plus jamais. Mmh. Et j'ai porté plainte pour violence conjugale. Et il y a eu le confinement, etc. Il y a eu beaucoup de ralentissements, effectivement. Mais la personne, le brigadier qui s'occupait de mon dossier, m'avait formellement dit qu'avec les éléments que j'avais transmis, ce monsieur pouvait être déféré. Je connaissais même pas ce terme-là, moi. Mmh. Et s'en est suivi après des problématiques qui sont un peu malchanceuses, c'est-à-dire que dans la ville où j'étais, où les faits sont produits, il y a eu une restructuration apparemment de la police et une migration de mon dossier un peu par éparse. Et finalement, je me fais téléphoner par une autre personne, donc cette fois-ci c'était une policière, et qui me dira. Que mon dossier était classé. Donc là, c'est la personne qui... Donc il y a des associations qui s'occupent de moi, qui s'occupent de femmes victimes de violences. et qui allait se renseigner avec mon numéro de dossier. Et jamais ce dossier n'a été classé. Apparemment, il est en train d'être migré maintenant dans la ville où je suis, parce que j'ai vécu aussi un aspect violent de sa part quand je me suis installée ici. Ça fait beaucoup. Et en définitive, je me retrouve à bout de 17 mois sans mon enfant et aucune relation avec cet individu qui me mette dans des dispositions très très inconfortables et déstabilisantes, parce qu'il est très apprécié par une des institutions.
Mmh. Mais oui, que c'est profil classique.
Profil classique. C'est quelqu'un qui, il a été en plus noté par le psychologue à l'époque qu'il avait une maturité affective, qu'il avait une maîtrise qui était à noter, entre guillemets. D'ailleurs, c'est écrit dans le dossier, l'homme parfait n'existe pas, ce qui pour moi est assez édifiant. Moi, depuis 17 mois, je suis noté comme quelqu'un d'authentique, comme quelqu'un de responsable, constante, et même de pragmatique, ce qui est par nature quelqu'un qui a le sens des réalités. Ce que j'ai mis en place est totalement vérifiable et ça s'est fait dans des temps records. Mais en attendant, j'ai des problématiques avec des personnes qui, pour moi, sont abusives. Et j'ai l'impression, en fait, de marcher comme un funambule sur un fil à beurre. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Mais le truc, c'est que je ne sais même pas ce qu'on me demande. Je ne sais plus ce qu'on est en mesure de me demander. Et j'ai écrit un dernier mail, là, récemment, en disant j'ai des droits, en fait. J'ai que des miettes de maternité. Pourquoi ? À quel moment, en fait, je serai mère. J'ai le sentiment que les institutions ont la parentalité de mon fils. Son père, je ne sais pas trop. Et puis moi, je suis exclue en permanence. C'est comme si je prouve et surprouve des choses. Je ne sais même plus quoi prouver. Et c'est les sables mouvants. Les dispositions et les promesses si je réalise certaines choses à une époque ne sont même plus d'actualité. Ouais. On n'en parle même plus d'ailleurs. Je ne sais même plus où je suis. Je ne sais même plus ce que je dois faire. Mmh. Et en ce sens, je suis obligée de faire une espèce de deuil, j'espère, temporaire, mais de vivre un jour et de connaître mon fils, parce que sinon, on peut pousser les gens trop loin et je m'y refuse. J'ai acquis des choses et une autonomie, et puis je suis en train de réaliser un projet professionnel extrêmement important pour moi. Et en plus, je suis à ça d'y arriver, c'est pas possible, quoi. Et en plus, comme ça, je me dis, si j'y arrive, peut-être que mon fils, un jour, il reviendra, quoi.
Votre fils, vous allez le récupérer, il faut absolument... absolument se battre, là. Il va falloir se battre à fond pour le récupérer, ce garçon.
Mais je ne peux pas me battre seule, c'est ce que je leur ai dit. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai réévalué en ayant... Ce week-end, il s'est passé quelque chose d'absolument délétère. Normalement, le lundi, j'ai mon enfant 4 heures à la maison, sous surveillance d'une personne qui est absolument adorable et qui fait des rapports qui sont totalement positifs à mon encontre et à l'encontre du bien-être de Gaspard. Et c'est mon enfant.
J'ai compris.
et malheureusement, cette personne a contracté le Covid. Et donc, on m'annonce que je ne verrai pas mon enfant et qu'il va falloir que je fasse le test. Donc, je me retrouve dans une torpeur totale tout un week-end, toute seule, à gérer la situation, hein. Parce que si j'ai le Covid, moi, je peux en plus y passer puisque j'ai une maladie autonome. Donc, ça faisait beaucoup. Finalement, je suis négative. Mais s'en est suivi les problématiques que j'ai eues auparavant et qui font qu'on m'a sucré aujourd'hui. J'ai appris un droit de visite encore. Donc... j'enchaîne, en fait, des déconvenues et c'est très oppressant, en fait, chaque semaine. C'est plus des imprévus, je sais même plus comment appeler ça. Et malgré tout, on me dit que je suis quand même plutôt solide avec ce que j'ai traversé. Mais je n'ai aucune défense, en fait. Juridiquement, je n'ai pas une bonne défense. Mon avocate ne répond jamais. Et pour me battre, il me faut un minimum de justice, en fait. Et je suis bien que quand je suis au contact de mon fils. Et là, je me retrouve dans une impasse. Et c'est une impasse dans laquelle je ne veux absolument pas me perdre. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas tomber dans des paralysies quelconques et faire n'importe quoi. Et c'est ce que j'ai pu noter aussi avec une personne. C'est que plus j'avance, et j'ai l'impression que moins c'est réjouissant pour les institutions, pour le père de mon fils. Parce qu'en ce sens, ça va à l'encontre de, en tout cas, la façon dont il m'a accusé, il m'a présenté. Vous voyez ce que je veux dire ?
Complètement, complètement. On va continuer à évoquer, parce que je voudrais vous poser quand même encore quelques questions par rapport à la garde de votre enfant. On marque une petite pause et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ?
Oui, d'accord, très bien, merci. À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h32 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin et vous pouvez continuer à appeler Florian et Natacha au 3921, chers amis. Mélanie, aujourd'hui, vous en êtes où par rapport au jugement, là, à l'heure où on se parle ?
Alors, on est sur deux affaires. En ce qui concerne mon enfant, on est censé avoir une audience en juin.
Oui.
La dernière audience de mon fils, qui concerne mon fils, c'était juin dernier. Auquel cas, donc, quand je parle de sable mouvant, c'est que, au préalable, je devais sortir d'une situation précaire, ce qui a été fait, et puis on m'aurait rendu mon enfant. Et en réalité, on m'a demandé finalement une coparentalité. Auquel cas, j'ai répondu d'accord. On nous a proposé une médiation qui a été un échec complet. Et où il a récupéré un certain nombre d'informations de ma part. Je me suis sentie prise à la gorge, c'était compliqué. Je ne l'avais pas revu, moi, depuis un an. En plus, il était juste face à moi. C'était vraiment trop, trop compliqué. Et il est parti en me disant, tu veux du sale, tu auras du sale. T'inquiète pas, je vais te détruire.
Et, du sale, il vous a dit du sale. Ouais.
Et il est arrivé, en plus, dans un état... Enfin, je trouve qu'on ne se présente pas comme ça... Voilà, à des endroits, je suis persuadée qu'il revenait d'une soirée encore, après, bon. Mais là, je me suis retrouvée, en fait, à la suite de ça, ne plus avoir du tout de nouvelles. Sachant qu'avant cette audience, on a eu quelques échanges où il s'est présenté en disant qu'il... par mail, pardon. Et où il estimait qu'il reconnaissait que j'avais eu de la souffrance. Et auquel cas, j'ai répondu, ça, c'est tout le monde le reconnaît, ça, c'est juste les conséquences. Mais c'est un fait. Et on a essayé d'échanger. Je lui ai dit que je n'avais pas échangé 14 mails. Et veille d'audience, il a changé encore ses dispositions. Il parle de mes propositions comme des conditions. Évidemment, c'est une question de point de vue. Et ça a été des logorées de merde. Désolé, hein, sur à mon propos. C'était très, très éprouvant. Très, très éprouvant. Et puis, on nous a demandé une coparentalité. Aujourd'hui, quand
une coparentalité, on vous a proposé une coparentalité.
Oui, une nécessité même.
C'est, pardon ?
Donc, on a un an. Donc, là, l'année va bientôt se terminer. Donc, de juin à juin.
Oui.
Et je n'ai absolument, strictement aucune nouvelle de cet individu. Et la question que j'ai posée aussi aux institutions, c'est est-il totalement serein pour ne pas le faire ? Et... à quel moment a-t-il eu des engagements à mon encontre et comment est-ce que je peux être certaine qu'il y aura des engagements vis-à-vis de mon enfant ?
Mais en fait, pour être très précise, que je comprenne bien, vous avez donc un jugement de coparentalité donc, qui définit une garde comment exactement ? Une semaine
Non, pour l'instant, j'ai toujours demandé une garde partagée parce que c'est un bébé, donc en fait, il n'y a pas de garde alternée. Enfin,
oui.
Voilà, c'est pas. Et ce monsieur a été une vraie girouette. Il était OK pour une garde partagée. Ensuite, là, maintenant, il est sur une garde exclusive. Il a fait un appel du jugement. On s'y est rendu mi-décembre, et où les personnes des institutions ont dit que ça servait à rien puisque les droits étaient en train d'être assouplis. Pour moi, il utilise des leviers excessivement pour encore avoir une image correcte, quoi. Mais il est plein de paradoxes, c'est-à-dire qu'en plus, il se présente comme quelqu'un qui aurait besoin de l'aide des institutions, donc il paraît très conciliant, etc., parce qu'il n'arrive pas à donner à manger, ou il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Mais en même temps, il veut avoir notre enfant complètement chez lui. Moi, je ne comprends pas plein de choses. Je ne sais pas si ça vous paraît cohérent. Il y en a des tas de choses, hein, comme ça. Et moi, à côté de ça, j'ai des rapports qui sont clairement définis, comme quoi le lien est impeccable, que je pourrais lui apporter le soin comme pas possible et qu'il est totalement sécure, quoi. Je ne saurais même pas quoi vous dire parce qu'il y a eu tellement d'éléments, tellement de choses. Mais moi, je me retrouve à être dans l'obligation d'une coparentalité où cet individu n'est jamais rentré en contact avec moi de toute l'année. Et il a opéré aussi un silence radio total depuis que j'ai accouché et puis que je suis partie aussi. Je me suis enfuie du domicile de l'époque. Et ça m'a beaucoup apporté de douleur, hein. J'avais le chagrin en bandoulière quand même. Hein. Et là, ce que j'explique, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas me mettre dans une coparentalité. Il n'y a pas d'équité. Il ne s'agit pas d'un conflit familial. Il y a de la violence conjugale. Ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, j'exprime aussi mon inquiétude sur les risques que peut encourir mon fils et moi. Je ne veux pas qu'il soit dans les conflits intérieurs, mon fils, ou des conflits de loyauté ou quoi que ce soit. Il a un début de vie qu'il ne mérite pas. Hein. Il a une famille, mon fils. Et moi, c'est ce que je leur ai dit, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas non plus en compte la maman, à quel moment les gens vont aller bien.
Mais ce que je ne saisis pas, c'est un juge a bien établi des jours où l'enfant devait être chez vous et des jours où il devait être chez le papa, en fait. C'est ça que je ne saisis pas.
Pas encore, non. Non,
pas encore, donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucun jugement et donc lui a décidé de garder l'enfant comme ça, à la barbe, à la barbe de tout le monde.
L'enfant. Il n'a pas l'enfant. Notre enfant est en institution. Il n'est même pas avec lui.
D'accord.
Parce qu'en fait, il m'a accusé d'être instable et d'être une femme violente. Il s'est présumé homme battu.
D'accord. Donc, du coup, cet enfant a été placé il y a combien de temps exactement?
À sa naissance. Je l'ai eu 12 minutes sur mon ventre.
D'accord. Donc, c'est bien là. Parce que, voilà, je n'avais pas compris que je pensais avait arraché l'enfant et qu'il était avec lui. Donc, cet enfant est placé.
Ah, c'est ça.
12 minutes après, on vous l'a arraché pour le placer.
Et puis, il n'a pas voulu venir à l'accouchement. Hein. Pas du tout. Hein. Et il se dédouane aujourd'hui en disant que son travail l'aurait pas laissé faire puisque c'était la dernière minute, ce qui est faux, puisqu'il a été appelé par mes amis plusieurs fois et notamment aussi par moi. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et puis, il m'a envoyé un mail 4 jours avant l'accouchement en m'exprimant que voilà, il a fait n'importe quoi, mais qu'il m'aimait plus ou pas depuis 4 ans. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Hein.
Non, mais je vous crois. C'est simplement, je veux comprendre bien les enjeux. Or, je commence à comprendre que cet enfant a été placé et que finalement, lui, il ne s'est pas spécialement battu pour récupérer son enfant.
Non, et c'est ce que je leur ai dit, c'est ce que je leur exprime. C'est-à-dire que pour moi, ça l'arrange bien, en fait, cette situation. Déjà par rapport à la vie qu'il mène. Et aussi dans la mesure où moi ça me prive et moi je me sens punie en permanence et je pense que ce que je leur ai dit, mes colères sont pas les mêmes colères que cet individu. Hein. Et ça s'arrête jamais quoi. Ça s'arrête pas.
Mais ça ne va s'arrêter qu'au moment où vous aurez stabilisé votre situation et que vous l'opposerez à la sienne.
Et c'est ce que je demande, mais il n'y a pas de table ronde, il n'y a rien.
Non.
Et moi, ma situation est totalement stabilisée. Mmh. En tout cas, tout ce qu'on m'a demandé, voilà. En revanche, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'on me demande de plus, et je suis dans une impasse totale. Et aujourd'hui, je me retrouve mise à mal à 2-3 mois de l'audience. Alors, rien n'est fini pour moi, mais là, j'ai besoin d'aide, réellement.
Vous avez pris un avocat ? Vous avez pris un avocat, je suppose ?
Je n'ai pas du tout les moyens. Je vous dis, j'ai appelé même des avocates qui s'occupent de d'affaires comme ça, qui sont sur Paris, et elles ne prennent pas l'aide juridictionnelle, mais elles m'ont dit qu'avec mon affaire, elles connaissaient bien ce... Elles me croyaient tout de suite. Ça a été d'une fluidité assez, assez surprenante pour moi avec, depuis ces deux dernières années. Et, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens de me les offrir. Et je peux vous assurer que...
Quel motif, pardonnez-moi de vous interrompre, mais pour quel motif on vous l'a enlevé, ce bébé, au tout début, à la maternité? Pardon?
Sur les...
Sur le père
à la maternité, c'est que j'ai traversé ces 4 mois de précarité, rue, hôtel 115, etc.
Oui.
J'étais très éprouvée, enceinte, j'avais pas d'aide. En plus, j'ai eu une prolifération de puces de lit. Enfin, c'était compliqué. Tout a été compliqué. Et je suis arrivée au bout du bout, à un moment donné, au bout des 4 mois. J'étais épuisée de contraintes. Et j'ai eu un suivi par une assistante sociale qui a produit une IP ou un OP, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et sachant qu'elle a eu mon ex-mari, mon futur ex-mari, au téléphone plusieurs fois, qui aujourd'hui s'est avéré, et qui pour moi me pose un grave problème d'éthique, c'est-à-dire que j'étais censée être protégée, elle connaissait la nature de la violence de cet individu, et elle l'a eu plusieurs fois au mois de septembre au téléphone, donc quelques semaines, 3-4 semaines avant que j'accouche. Et ensuite, j'ai dû être hospitalisée, à un hôpital... parce que j'étais en grossesse pato, et ça a été compliqué aussi encore là-bas, et j'étais tellement éprouvée qu'on m'a mis en hôpital psychiatrique. Je n'avais rien à y faire.
Psychiatrique combien de temps, en fait?
J'ai accouché 2 jours après, donc parce que j'étais très éprouvée.
Oui.
D'ailleurs, on n'a pas voulu me laisser sortir. J'ai toutes les photos, d'ailleurs. Et j'ai jamais vu la psychiatre en question qui a déterminé des choses sur moi. Personne qui a eu, d'ailleurs, mon ex-mari, donc, à l'époque, et qui lui aura donné un certain nombre d'informations, et notamment comme quoi j'allais me suicider, ce qui pour moi est proprement impossible, puisque je portais la vie en moi.
Vous le savez, ça n'est pas une règle. Il y a des gens qui peuvent être... psychologiquement fatigués, dérangés, et qui peuvent commettre des choses...
Peut-être. Alors, je les blâme pas.
C'est une précaution qu'ils ont prise, sans doute liée à votre état de grande fatigue et sans doute de gros stress.
Oui, probablement. Sauf que le stress a été que je n'ai jamais vu cette personne et que j'étais directement fermée dans une pièce cinglée. Parce que je ne comprends pas, en fait, pourquoi.
Je comprends.
Et à ce moment-là, j'ai failli accoucher dans cette pièce. J'ai perdu les os et j'étais en train de faire des exercices sur une table, vous savez, les tables à roulettes où on vous donne à manger.
Mm-hmm.
J'hurlais. Et une aide-soignante qui m'a dit: j'ai 4 enfants et je sais que vous êtes en train d'accoucher, madame. Et elle m'a dit: je ne sais pas comment je vais la raisonner. J'ai été transportée, je crois, une heure après à l'hôpital pour accoucher, et on m'a ramené post-accouchement, donc je venais d'avoir 12 minutes mon petit bébé. 7 heures après, j'ai été reconduite dans cet hôpital. Pourquoi? J'ai pas eu de traitement post-grossesse apaisant, etc. D'ailleurs, quand on est arrivé devant la porte de cet hôpital psychiatrique, j'étais dans un couloir, les ambulanciers attendaient, et la psychiatre justifie qu'elle ne pouvait pas m'accepter, pour sur quelle raison? Et que je venais juste d'accoucher, mais qu'elle était très embarrassée.
D'accord. Bon, il y a eu tout autour de la naissance du petit beaucoup de choses qui se sont passées, en plus.
Moi, j'ai pas toujours bien géré émotionnellement, c'est vrai.
Non, mais c'est normal.
Mais ça m'a porté préjudice, quoi.
Il y a eu beaucoup de mouvements autour de vous, enfin, en tout cas, beaucoup de micmacs. Oui. J'entends que ça... Ça a pu ne pas être facile pour vous.
Ouais.
Donc, la prochaine étape, pourquoi ne pas demander l'aide juridictionnelle, en fait?
J'en ai déjà une. Et mon avocate ne répond pas.
Et l'avocate ne... Aucun avocat ne s'intéresse à votre affaire?
Non, 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 j'ai une avocate, mais je n'arrive pas à la joindre, jamais. Et avec tous les éléments que j'ai, je suis dans une impasse. Donc là, effectivement, j'ai réclamé des documents à l'association où je suis suivie par une juriste qui m'aide et pour faire une autre demande d'aide juridictionnelle. Mais c'est compliqué, c'est que rien ne me dit que la prochaine personne sera quelqu'un qui sera investi. Je suis dans des flous en permanence, en fait, je suis dans des incertitudes en permanence, quoi. Et c'est la raison pour laquelle moi je les ai appelés, je sais pas, une espèce de miracle, de quelque chose qui se passe, hein. Toujours en restant dans la légalité, mais il faut que ça se passe autrement.
Malheureusement, vous le savez, je ne fais pas de miracle, personne n'en fait, mais...
Que si quelqu'un m'entend, quoi.
Mais si quelqu'un vous entend, si un juriste vous entend, si un avocat dans le sud de la France veut vous tendre la main, parce que sans avocat, vous n'y arriverez pas, de toute façon. Vous le savez, vous avez affaire aujourd'hui à l'ASE. En plus de ça, vous avez affaire à l'ASE dans une situation où il y a un homme de l'autre côté qui veut vous faire du sale. Je reprends ces expressions. Oui. Qui est extrêmement désagréable à entendre, ce genre de mots. Et l'ASE, à juste titre, ne prendra aucun risque pour cet enfant. On souligne souvent ici, sur cette antenne, le dysfonctionnement de l'ASE, mais là, on est dans une situation où, tant qu'on n'a pas une situation stable pour ce bébé, en fait, hein, c'est encore un petit garçon, il a quel âge là ?
Il a 17 mois et c'est ce que j'avais dit. Mois. J'aurais jamais de bébé, mais j'aurais peut-être un petit garçon. Le truc, c'est que je dénonce la confusion en permanence.
Oui, mais comprenez en fait, Mélanie, qu'il y a eu une situation explosive. J'entends explosive avec un mari manipulateur, en tout cas qui, quand il vous dit ça, n'est pas dans le bon, le bien, le recommandable et se comporte comme un sauvage. Et puis vous, dans un état de grande fatigue, visiblement dans un état émotif un peu éparpillé. Et cette situation-là, elle est marquée dans le marbre pour l'ASE.
Je sais. Et je leur ai dit, pourquoi vous pathologisez une émotion à un temps ? C'était une période, mais pourquoi vous ne m'avez pas aidé ? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les choses sont complètement différentes, quoi. Mais une émotion, enfin les émotions, c'est naturel à un moment donné. Et là, ça ne s'arrête plus, quoi. Et je suis obligée de me séparer de l'idée de vivre le rêve de vivre avec mon fils. Sinon, ils auront tout. Si je ne fais pas ça, ils pourront encore instrumentaliser mon fils et opérer comme ça, et lui aussi. Et c'est hors de question. Vraiment, là, c'est une question de conservation et de survie. Je ne peux pas. Je sais pas quoi faire, je sais pas. Je suis consciente des choses, et tout le monde le sait d'ailleurs. Et je suis structurée en fait, je sais pas ce qu'on me demande, je sais pas.
Mais on vous demande plus grand chose là, malheureusement. On vous demande plus grand chose, on est dans une situation où malheureusement...
Mais j'ai espoir quand même que, parce que on doit être, à propos de la violence conjugale, c'est pas terminé. Donc j'attends qu'on soit convoqué. Là aussi, je voudrais aussi de l'aide, parce qu'avec tous les éléments que j'ai... Ah oui, c'est ça aussi que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que mon dossier aurait été classé parce qu'il y a des éléments sur lesquels était basé le premier brigadier qui disait que ce serait possible qu'il soit déféré, qui n'ont jamais été reçus. C'est des textos qui sont édifiants. Il y a une conscientisation réelle où il dit qu'il va me tuer s'il continue comme ça. C'est pas moi qui les ai écrits quand même, ces textos. Et ces textos n'ont jamais été reçus par les autres équipes quand mon dossier a subi une migration.
D'accord.
Et là, je me retrouve en fait avec, comme vous pouvez le constater, tout un tas d'éléments qui complexifient tout. Et moi, je me retrouve là un peu comme David contre Goliath et je ne sais plus quoi faire. Parce que lui est dans une maîtrise et dans des... Je ne sais plus, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il devient. Il est dans des dissimulations permanentes Et quand il vient dans ma ville pour voir mon fils, bah, il peut se permettre de faire le masque qu'il veut, quoi. Enfin, mais personne ne sait ce qu'il fait dans sa ville, qu'il voit. Et là, moi, je suis oppressée, je ne sais plus. Je sature, quoi. Je sature, en fait, de ne pas avoir d'opportunité pour qu'il y ait une vraie lecture sur la vérité. C'est ce que j'aurais dit, la manipulation ne vient pas de enfin, on ne voit pas que c'est le manipulateur qui c'est le manipulé qu'on met à mal. Et aujourd'hui, je dis non, quoi.
Oui, c'est une situation qui va encore durer un bon moment. Donc, il est certain qu'il faut que vous vous accrochiez et qu'il y ait une avocate qui rentre dans tout ça. Parce que c'est une situation très difficile que vous nous exposez là. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes rétabli. La bonne nouvelle, c'est que vous allez mieux. Et que ça, c'est
même bien.
On l'entend, vous êtes posé, vous êtes bien. Et maintenant, la prochaine étape, c'est celle d'une avocate qui vous répond ou d'un avocat qui nous entend ce soir et qui veut bien vous tendre la main. Alors, votre appel a bien été, bien évidemment, entendu ce soir. Il va continuer de l'être demain en podcast. Bien évidemment, si nous avons le moindre contact, on vous le fera passer. Et puis je vous souhaite plein de courage, Mélanie, plein de courage, et tenez-nous au courant.
Merci.
D'accord.
Très bien, ça marche, merci.
Portez-vous bien.
M'avoir écouté.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir, bonne soirée.